Bonjour et bienvenue. Comme tous les vendredis, chercheurs, journalistes et acteurs de la culture scientifique se retrouvent dans le club des Têtes au Carré. Au menu des discussions aujourd'hui, une grande rétrospective pour évoquer les découvertes et les avancées scientifiques les plus marquantes de l'année 2016, les réflexions d'un jeune chercheur sur la façon dont se fait la science aujourd'hui et les méfiances qu'elle suscite. Et puis à la une de la science aujourd'hui, une nouvelle avancée peut-être dans le traitement du cancer par immunothérapie. Bonjour Agnès Fèvre.
Bonjour Daniel. On parlait lundi d'un vaccin efficace contre la fièvre Ebola, eh bien on termine la semaine avec une autre note d'espoir, suscitée cette fois par le traitement immunologique d'un cancer du cerveau. Les résultats s'avèrent encourageants et on en discute avec le spécialiste de l'immunothérapie David Klatzmann.
Voilà pour le sommaire de ce Club des Têtes au Carré, réalisé par Céline Hila et préparé par Camille Jusot et Hugo Struna.
La Tête au Carré, le Club, avec Daniel Fievé sur France Inter.
Une large part de cette émission sera donc consacrée aux événements scientifiques marquants de l'année 2016. Alors pour cette rétrospective, trois journalistes hors pair autour de la table. Sophie Bécherel de France Inter, Philippe Pajot du magazine La Recherche et Philippe Hénarejos de Ciel Espace. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Bonjour.
Alors nous détaillerons tout à l'heure les découvertes de l'année que vous avez choisi de retenir. Mais avant tout, une impression générale, 2016 est-elle un bon cru sur le plan scientifique? Philippe Pajot.
Oui, effectivement, c'était une été riche en émotions scientifiques et surtout du point de vue de la physique, avec énormément de choses. Et notamment, donc, on a consacré notre numéro spécial de janvier à 2016, année de la physique,
avec toutes les découvertes qu'il y a eu. Les 10 découvertes majeures, 2016, année de la physique, c'est la une de la recherche du numéro de janvier. Philippe Hénarejos, du côté de l'exploration, il y a eu exploration spatiale, des hauts, des bas.
Ben c'est pas mal, plutôt des hauts quand même. On a une sonde qui arrive autour de Jupiter, une autre qui est autour de Mars. On a vu la fin de la mission Rosetta autour d'une comète. Et puis, il faut pas oublier cette petite sonde dont on parle peu, mais qui fait des résultats intéressants autour d'une planète naine qu'on appelle Cérès. C'est la sonde Dawn de la NASA.
On en parlera tout à l'heure. Sophie Bécherel.
Ben oui, moi qui suis généraliste, je peux vous dire qu'on n'a pas chômé et je vous parlerai d'intelligence artificielle. Il y a eu beaucoup d'avancées et de neuroprothèses. On peut espérer un jour voir remarcher des hommes para et tétraplégiques.
Et puis en fin d'émission, nous retrouverons Aline Richard, éditrice sciences et technologies pour The Conversation France, avec Romain Pironnet, chercheur, dont l'article est mis en ligne aujourd'hui en partenariat avec La Tête au Carré. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Alors Aline, quel sera le sujet aujourd'hui?
On va parler science et éthique avec Romain, qui est un jeune chercheur nancéen. Les cas de plagiat, les cas de fraude se multiplient, les scientifiques se posent des questions. La structure même de la science est en train de changer et on va en parler avec Romain.
Votre article s'intitule, Romain Pironnet, s'intitule « Science et société, des valeurs sous tension ». Vous avez l'impression que les rapports entre science et société se tendent ?
Oui, alors aujourd'hui on va faire un peu une rétrospective des grandes découvertes, des grands événements scientifiques de l'année. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'à mesure que notre compréhension générale du monde s'accroît, et bien pour autant ça suscite de plus en plus de craintes, de controverses, d'inquiétudes. Donc j'avais envie de discuter un petit peu de ça.
Eh bien, nous en discuterons et les auditeurs peuvent participer et réagir via la page de l'émission sur franceinter.fr ou sur Twitter avec le mot-clé « l'attaque ». À la une de la science, utiliser nos propres défenses pour vaincre le cancer. C'est le principe de l'immunothérapie, ce traitement qui vise à stimuler notre système immunitaire, qui a déjà obtenu des résultats prometteurs dans des cas de cancer du sang et puis plus récemment du poumon. Et dans un article qui vient de paraître dans le New England Journal of Medicine, des chercheurs dévoilent les premiers résultats d'un traitement expérimental sur un patient atteint d'une tumeur cérébrale. On en parle avec David Klatzmann. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste de l'immunothérapie, co-découvreur du virus du sida et chef du service biothérapie de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Alors qu'est-ce que ces chercheurs américains ont réussi à faire exactement?
Écoutez, ils ont traité des patients présentant une tumeur cérébrale qui s'appelle le glioblastome et qui est une tumeur de très mauvais pronostic pour laquelle on est très démunis en ce qui concerne son traitement. Et ils ont essayé donc une approche d'immunothérapie qui consiste à prélever chez ces patients des lymphocytes qui sont des cellules cellulitaires, à les modifier génétiquement pour qu'elles puissent être ciblées et attaquer spécifiquement les cellules tumorales et à les injecter ensuite dans le cerveau du patient. Et ce qui est tout à fait remarquable, c'est que ce patient qui avait une forme très avancée de la maladie, avec plusieurs tumeurs dans le cerveau tout à fait visibles avec l'imagerie de type IRM, ce patient a vu ses tumeurs complètement régresser, disparaître tels qu'on peut les observer avec l'imagerie, ce qui est en soi déjà une indication, en tout cas, d'efficacité du traitement. Bon, malheureusement, ce patient a ensuite récidivé quelques mois plus tard, ce qui est évidemment une fin moins heureuse, mais ce traitement a quand même montré très clairement son efficacité.
Agnès Fèvre.
Oui, c'est la première fois que des cellules immunitaires étaient injectées dans ces régions du cerveau.
Alors, encore une fois, le glioblastome, qui est une tumeur de très haut pronostic, évidemment, on cherche à développer des approches novatrices hein, pour le prendre en charge. Il y a d'ailleurs de la thérapie génique avec des virus réplicatifs qui est développée aujourd'hui avec des indications d'efficacité. Là, cette approche consistant à injecter des lymphocytes génétiquement modifiés, elle est développée par ses propres chercheurs depuis un moment. Elle a fait l'objet au départ de manipulations génétiques d'un certain type qui ont donné des résultats encourageants mais pas suffisants. Et là, ce qu'ils rapportent, c'est ce qu'on appelle un peu la deuxième génération de ces traitements. Et ils ont trouvé très encourageant le résultat qu'ils ont pu montrer, qui, oui, est le premier résultat de cette nature pour cette tumeur.
Agnès ?
Par rapport à d'autres types de traitements contre le cancer, en quoi consiste l'immunothérapie ?
Alors, il y a deux formes principales d'immunothérapie aujourd'hui. L'une consiste à activer les propres cellules immunitaires du patient sans les extraire hein, de son organisme et sans les modifier génétiquement au préalable. Et on les active en leur injectant une molécule, un anticorps qui va pousser ces cellules à se diviser, à s'activer, à avoir une activité plus grande. Et c'est ce qu'on fait déjà pour plusieurs types de tumeurs, avec des résultats qui ont été tout à fait spectaculaires, et par exemple des succès qui dépassent plus de 30 à 40% d'efficacité pour des tumeurs aussi très sévères qui sont par exemple le mélanome malin métastatique. Donc ça, c'est une approche. On active directement chez l'individu son système immunitaire pour qu'il attaque la tumeur.
Et la deuxième approche ?
La deuxième approche, c'est donc de prendre les cellules du patient, puis de les cultiver en laboratoire. Alors quand je dis en laboratoire, c'est en fait laboratoire pharmaceutique, hein, dans des conditions de sécurité importantes, d'introduire dans ces cellules, à l'aide de virus, des gènes qui vont changer les propriétés de ces lymphocytes en les ciblant sur une cible qu'on a identifiée sur la tumeur, de les expandre en grand nombre, puis de réinjecter des dizaines, voire des centaines de millions de ces cellules cultivées en laboratoire chez le patient pour qu'elles aillent cibler la tumeur et, si possible, la détruire.
Alors David Klatzmann, il faut évidemment qu'on soit très mesuré hein, sur ce que vous nous annoncez, parce que évidemment ça va susciter des espoirs hein, chez les patients concernés ou chez les familles qui ont dans leur entourage des malades. Et il faut le dire, hein, certaines thérapeutiques qui ont été interrompues cette année, notamment parce qu'il y avait, il y a eu des morts, notamment sur des leucémies ou sur d'autres tests qui avaient pu être faits. Donc aujourd'hui, on en est où exactement et on peut envisager vraiment ces thérapeutiques pour à quelle échéance ?
Alors écoutez, tout d'abord, sur le cas que nous rapportons aujourd'hui de ce patient qui a un glioblastome, il faut quand même préciser tout de suite qu'il s'agit d'un cas. Et d'ailleurs, c'est un tout petit peu surprenant que le journal, un très grand journal comme New England, publie un cas.
Ouais.
C'est probablement parce que quand même, c'est un cas d'école, si on peut dire. Ça fait ce qu'on appelle la preuve du concept. Ça prouve le fait que l'immunothérapie peut marcher. Mais évidemment, tant que ça reste sur un patient, il faut être extrêmement prudent. En tout cas, ça ouvre une voie. Sur l'immunothérapie en général, là, je crois qu'il ne faut pas cacher sa satisfaction. Bien sûr, il y a eu quelques coups de semonce avec des effets secondaires violents de ces immunothérapies qui, évidemment, sont tout à fait dommageables. Mais ce qu'il faut regarder lorsqu'on donne un médicament, c'est ce qu'on appelle le bénéfice-risque. Il y a toujours un risque de ces traitements, de tout traitement d'ailleurs. Il y a comme tout le monde le sait, les chimiothérapies anticancéreuses ne sont pas toujours très bien supportées. Donc ces traitements, comme les autres, peuvent donner lieu à des effets secondaires. Cela dit, oui.
Oui, Agnès.
Allez-y, vous allez-y. Non, non, mais cela dit, oui.
Non, mais cela dit, encore une fois, je crois que ce qui a été montré pendant les dernières années, c'est que le système militaire, dont on a longtemps douté qu'il soit capable d'aller attaquer efficacement les cellules tumorales, parce qu'on n'observait jamais de façon, je dirais, spontanée. Tout d'un coup, on a la preuve que si on l'active correctement, si on modifie les cellules correctement, il devient capable de le faire. Et avec déjà des résultats tout à fait spectaculaires de cette tumeur. Et ce qui est important également, c'est que les premières approches qui ont été développées sont d'une part les premières d'une série d'approches de ce type, c'est-à-dire que les molécules capables d'activer le système immunitaire, on n'en a pas une aujourd'hui à tester, mais on en a 10, 15, 20 qui sont en développement. Ces molécules, on va pouvoir les associer, et l'image que j'aime bien donner, c'est que on a déjà vu ça à l'œuvre pour le traitement de l'infection par le VIH, du sida. Au départ, on avait une molécule unique qui n'était pas très efficace, puis on a eu une deuxième, une troisième, on a commencé à les associer, et aujourd'hui, chez la plupart des patients, on arrive à contrôler ce virus.
Il faut trouver les bonnes combinaisons, c'est ça que vous dites.
Exactement.
À l'avenir.
C'est exactement ce qui va se passer avec le cancer. On va associer non seulement ces différentes molécules qui activent le système immunitaire, mais on va les associer aussi avec les thérapeutiques déjà utilisées, thérapeutiques classiques, qu'il faut évidemment pas jeter aux oubliettes, hein. Les chimiothérapies vont avoir une deuxième vie en association aussi avec ces chimiothérapies. Et je pense qu'au total, on peut estimer que dans quelques années, 10, 15 ans, la majorité des cancers pourront être pris en charge de façon efficace par les immunothérapies.
Merci David Klatzmann et Agnès Fèvre. À lundi.
À lundi.
En bref, dans le reste de l'actualité scientifique, pour se prémunir du risque d'être frappé par la foudre, voici les endroits à éviter. Le lac vénézuélien Maracaibo, touché 233 fois par an en moyenne entre 2008 et 2013, a évité également la région de Kabaré en République démocratique du Congo, ou la ville de Dagar dans le nord du Pakistan, selon une étude de l'Association américaine de météorologie basée sur les données récupérées par la mission de mesure de pluviosité tropicale. Les chercheurs soulignent aussi que la foudre frappe plus souvent sur Terre que sur les océans, en été plus qu'en hiver, en général entre midi et 18h, et elle privilégie un terrain escarpé, autant de facteurs qui favorisent les risques d'orage. Les opinions politiques varient peu et cela tiendrait au fonctionnement de notre cerveau. Telle est la conclusion d'une étude parue dans Nature. Des chercheurs ont observé par IRM les réactions de cobayes qu'on essayait de faire changer d'avis sur des sujets tels que l'avortement ou les dépenses militaires de leur pays. Leur avis ne change pas au fil des contre-argumentations, alors que les opinions non politiques se révèlent beaucoup moins stables. Explication des chercheurs, quand il entend un argument contraire à son opinion, le sujet déclenche une réaction de résistance dans une zone du cerveau liée au soi, à l'identité. C'est cette même zone qui est activée pour les croyances religieuses. Une minute de 61 secondes, ça n'arrive pas tous les jours et la prochaine est programmée dans la nuit de samedi à dimanche, pendant que nous réveillonnerons à minuit 59 précisément. Il s'agira de recaler nos deux échelles de temps, le temps atomique, base du temps légal, et le temps astronomique lié à la rotation de la Terre, car très imperceptiblement, la rotation de la planète ralentit en raison des effets des marées. C'est la 37e fois qu'on remet ainsi nos pendules à l'heure depuis 1972. Dans un instant, grande rétrospective scientifique de l'année 2016 dans La Tête au Carré sur France Inter.
Avions qui sont passés devant, j'ai percé mes paupières pour regarder.
Claude Pelgag, les ferrofluides fleurs sur France Inter.
La tête au carré. Le club.
Quelle découverte importante, quelle avancée scientifique majeure ont marqué l'année qui se termine. Pour en parler autour de la table, Philippe Hénarejos de Ciel et Espace, Sophie Becherel de France Inter, Philippe Pajot de La Recherche, Aline Richard de The Conversation France et le scientifique Romain Pierronnet. Alors s'il n'y avait qu'une seule découverte à retenir, ce serait celle-là. Les médias en ont parlé, mais a-t-on suffisamment pris la mesure de l'importance de cette découverte qui est peut-être celle de la décennie? Souvenez-vous, c'était en février dernier.
Le laboratoire américain, LIGO, aurait perçu le signal caractéristique d'une onde gravitationnelle.
Mesdames et messieurs, nous avons détecté les ondes gravitationnelles. Ça y est, c'est fait.
Ça a été un grand moment d'émotion.
Ça mérite un prix Nobel.
Je suis vraiment admirative devant cet exploit.
C'est un événement majeur, effectivement, de l'histoire de la science.
Les chercheurs ont mis un siècle à faire leur démonstration depuis qu'Einstein en avait eu l'intuition.
Et c'est un résultat exceptionnel.
C'est la première fois que l'univers nous parle à travers ces ondes gravitationnelles. Jusqu'ici, nous étions comme sourds, mais aujourd'hui, nous sommes capables de les entendre.
La découverte des ondes gravitationnelles. Donc, Philippe Pajot, votre magazine La Recherche dans son numéro de janvier, titre 2016, l'année de la physique, avec donc un classement des 10 découvertes les plus importantes et évidemment au premier rang, à la première place, ces ondes gravitationnelles. Pourquoi cette découverte est-elle si importante?
Ça a été un événement planétaire, effectivement. On pourrait presque dire une révolution en astronomie et en astrophysique avec... D'abord, un secret de la découverte qui a été bien gardé, une rumeur qui enfle, qui a tout a été très 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 bien mis en scène avec cette annonce officielle. Mesdames et messieurs, nous avons, et solennel, nous avons découvert les ondes gravitationnelles, ça y est. Alors, essayons d'expliquer un petit peu ce qu'a vu exactement cet observatoire. Donc, c'est l'observatoire LIGO aux États-Unis. Donc, le 14 septembre 2015, les astronomes de garde du consortium LIGO Virgo ont vu apparaître une alerte automatique sur leur mail qui leur disait qu'il y avait un signal qui pouvait provenir d'une onde gravitationnelle. Branle-bas le combat, les physiciens aux États-Unis, en France, en Italie, se mettent à travailler d'arrache-pied pour essayer de vérifier que ce signal est bien ce qu'ils espèrent. Au début, ils n'y croient pas trop d'ailleurs, il y a un moment de doute, parce que le signal est très très fort, beaucoup plus fort que ce qu'ils imaginaient, trop beau pour être vrai, presque. Et en plus, pour vérifier que les physiciens sont bien capables de détecter mon signal, parfois, ils injectent des faux signaux à l'intérieur. Donc du coup, il y avait un doute que ça aurait pu être quelqu'un qui a joué une sorte de fausse alerte, une blague, voilà, pour voir si les gens étaient capables de dessiner ce signal. Ouais. Mais assez vite, il apparaît que c'est pas le cas, et effectivement que le signal est réel, bien plus fort ce qu'il était prévu au départ. Et du coup, on peut reconstituer l'histoire de cet événement astronomique qu'on voit pour la première fois, un scénario qui commence un peu comme le début de Star Wars, il y a très longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine, en l'occurrence, il y a 1,3 milliard d'années-lumière.
D'accord.
Et donc, qu'est-ce qui se passe dans ces galaxies lointaines? Deux trous noirs tournent l'un autour de l'autre. Ces trous noirs font environ 30 fois la masse du Soleil. Ils tournent très 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 vite l'un autour de l'autre. Donc, et en tournant, ils perdent de l'énergie, ils se rapprochent. Et à la fin de cette danse céleste, ils vont à peu près à la moitié de la vitesse de la lumière et ils sont à une centaine de kilomètres. Et juste ces derniers instants produisent une sorte de mouvement dans l'espace-temps. Mmh. Et ces mouvements produisent des ondes qui vont se déplacer et s'expandre dans tout l'univers et venir jusqu'à la Terre et vont être détectés par ce fameux signal qui est analysé par les chercheurs du consortium.
Alors Philippe Hénarejos, est-ce qu'on peut essayer de donner avec des mots simples une idée à nos auditeurs de ce que c'est qu'une onde gravitationnelle?
Alors pour ça, il faudrait imaginer que l'espace qui nous entoure, c'est quelque chose, ce n'est pas rien. Donc on va imaginer ça. Que par un événement gravitationnel, donc la rencontre, la fusion de ces deux astres très denses, ça secoue quelque chose qui est l'espace autour, et ça se diffuse dans l'espace autour de lui jusqu'à l'infini. On finit par le recevoir. Et comment ça se traduit? Ça se traduit par exemple dans ce studio par une légère, brusque et éphémère augmentation de la distance qui nous sépare tous les deux. Ouais. Alors c'est pas visible, c'est pas visible à l'œil nu. C'est une fraction infime de la taille d'un atome, donc il faut des instruments très précis pour le voir. Mais en gros, l'espace qui est quand même assez dur arrive à se déformer sous le passage de cette espèce de déformation, de cette onde, et c'est ça qu'on mesure.
Et il y a eu cette image beaucoup reprise qu'on a entendue dans le son tout à l'heure, cette idée que tout d'un coup, c'est comme si nous avions regardé l'espace avec l'image pendant des siècles et des siècles, et tout d'un coup, on a accès à un autre sens, comme si, alors ça ne sont pas des ondes sonores, mais beaucoup ont dit maintenant on entend, c'est-à-dire qu'on a accès, on perçoit l'univers un peu différemment, avec de nouveaux outils.
Oui, c'est une autre fenêtre. C'est important parce que, par exemple, on parle de la fusion là de deux trous noirs. Jusque-là, on n'avait quand même que des observations indirectes des trous noirs. Alors, certes, il y avait de fortes présomptions, etc. Mais là, c'est une confirmation qu'il y a des astres qu'on a appelés trous noirs, qu'on a théorisés pendant des années, qui existent, et c'est le moyen de les voir. Il y en a certainement d'autres, on risque d'en parler tout à l'heure. Ouais. Mais en tout cas, ça ouvre une nouvelle fenêtre, et peut-être que, avec ce nouveau moyen d'observation, on va aussi découvrir un nouveau bestiaire d'astres ou d'événements qui se passent dans la galaxie ou dans les autres galaxies, des fusions d'étoiles à neutrons, de naines blanches, que sais-je encore.
Sophie Bécherel, c'est pour ça que c'est une révolution, parce que ça nous donne accès à voilà tout un nouveau bestiaire stellaire qui s'ouvre devant nous. Est-ce que très honnêtement, quand on est à la rédaction de France Inter, tout le monde n'est pas très calé en sciences et qu'on arrive, on a une découverte absolument extraordinaire, c'est les ondes gravitationnelles, est-ce que tout le monde est à fond?
Oui, parce que très vite, les dépêches mettent Einstein. Quand vous mettez Einstein, c'est gagné. Mais Philippe Pajot avait raison. Il y avait une petite rumeur qui enflait. Et puis, quelques journalistes avaient eu la chance d'aller à Vigo, qui est l'observatoire européen qui se trouve en Italie avant. On se doutait bien qu'on ne nous avait pas emmené à Vigo pour rien. Puisque si la découverte a été faite aux États-Unis, les chercheurs qui travaillent sur l'observatoire en Italie sont complètement impliqués dans cette science-là. Donc, voilà.
Donc, on n'a pas fini d'entendre parler des ondes gravitationnelles dans les années à venir. Mais l'exploration spatiale continue de se faire avec nos bonnes vieilles sondes, hein, quand même, Philippe Hénarejos, et 2016 a eu son lot de missions spatiales.
Oui, on a notre bonne vieille quincaillerie qu'on envoie dans l'espace continue à se mouvoir à des vitesses d'escargot, mais quand même, il y a une sonde qui était partie, je crois que c'était en 2011, qui s'appelle Juno, qui s'est satellisée le 5 juillet dernier autour de Jupiter, la plus grosse des planètes. Alors, c'est un peu mitigé parce que quand même, elle devait, cette sonde, réussir au mois d'octobre une circularisation de son orbite pour être sur l'orbite exacte qu'il lui fallait pour pouvoir observer l'intérieur de Jupiter, car cette sonde est là pour observer, comprendre la structure interne de Jupiter et nous renseigner sur son origine, de cette planète géante. Mais la manœuvre n'a pas eu lieu, il y a eu un problème technique qui a été repoussé encore. Le 11 décembre dernier, elle est passée de nouveau plus près de Jupiter. Les scientifiques sont en train de comprendre ce qui se passe. Ils vont essayer, la prochaine fois, ça risque d'être au mois de février, de circulariser enfin cette sonde. Pour l'instant, elle a envoyé quelques images. Elle a commencé à faire des mesures, mais on attend un peu.
Et puis toutes les missions ont une fin, même les plus belles, et c'est cette année que la mission Rosetta a pris fin.
Oui, je vous présente plus la,
ouais, la Rosetta, la comète Tchoury, le petit atterrisseur Philae, on a suivi ça avec passion.
Voilà. Rosetta, cette année, pour ne se limiter qu'à cette année, a d'ailleurs repéré le module Philae le 2 septembre, juste avant de finir sa mission, puisqu'elle se rapprochait de plus en plus. Et puis, le 30 septembre, elle a plongé sur la comète, où elle doit reposer aujourd'hui, si elle n'a pas trop rebondi. Elle doit être cassée, mais en tout cas, cette mission, c'est quand même une belle réussite européenne, une belle réussite scientifique. On a découvert une comète au contour tout à fait bizarre, à l'histoire tout à fait bizarre, à la structure bizarre. On a reniflé cette comète, on a regardé tout ce cas-là. Les scientifiques sont en train d'étudier les molécules qu'ils ont perçues sur cette comète pour en apprendre évidemment toujours un peu plus sur les conditions qui régnaient il y a 4 milliards de milliards d'années avant que la Terre ne se forme.
Et puis pour terminer sur ce chapitre, on y reviendra hein, dans la deuxième partie de cette rétrospective, et pour terminer sur ce chapitre des sondes, il y a aussi ExoMars. Alors là, c'est le verre à moitié vide, le verre à moitié plein. Tout n'a pas marché comme prévu, quand même, hein, pour ExoMars.
Il faut être juste. Pour ExoMars, il y avait une sonde qui s'appelle Trace Gas Orbiter, qui s'est mis remarquablement bien en orbite autour de la planète Mars. C'est une sonde européenne qui va étudier l'atmosphère de Mars et pourquoi pas essayer d'y détecter du méthane. Vous savez peut-être que le méthane peut avoir deux origines, biologiques ou géologiques, tout simplement. Donc, on a vu par le passé des on a perçu un peu de méthane dans l'atmosphère de Mars. On se demande bien quelle est son origine. On espère toujours, évidemment, qu'il y a des bactéries qui le produisent. On n'en est pas là, mais en tout cas, cette sonde va étudier l'atmosphère de Mars, va étudier l'évolution de l'atmosphère de cette planète et donc de son histoire. Mais simultanément, il y avait un petit atterrisseur qui était un démonstrateur, c'était un engin technique pour apprendre à se poser sur Mars, parce que je rappelle que c'est très difficile et qu'il n'y a qu'une seule nation qui a réussi ça, c'est les États-Unis, et à quelques reprises seulement. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'échecs, les Russes, tout le monde s'est cassé la figure sur Mars. Là, ça avait bien marché jusqu'à une certaine altitude, et je crois qu'il y a eu un problème essentiellement informatique, de logiciel, qui fait qu'à un moment donné, le moteur qui devait freiner les derniers mètres de la descente du petit atterrisseur qui s'appelait Philae ne sont pas arrivés.
Schiaparelli,
pardon. Bien vu.
Philae, c'était pour.
Et donc il est arrivé, il a tapé un peu fort, donc je vois qu'il est complètement détruit.
Oui, il a coupé, il s'est écrasé sur la planète.
Ce qui est important dans cet échec, c'est que toutes les données pendant la descente ont été transmises. Donc là, ce sont des données importantes pour savoir comment on traverse l'atmosphère. C'est important parce que quand même en 2020, l'Europe va envoyer par le même moyen, un rover se poser sur Mars. Et là, il ne faudra pas se louper, se casser la figure.
Très bien. Qu'est-ce qu'on trouve à la une du prochain numéro de Ciel et Espace, Philippe Hénarejos?
C'est l'Empire des Galaxies.
L'Empire des Galaxies.
On raconte l'histoire des galaxies qui est finalement l'histoire de l'univers.
La suite de notre rétrospective scientifique 2016, dans un instant, avec notamment les avancées importantes dans le domaine de l'intelligence artificielle.
Kan yele le bish Kukur briske rasish Sete naske bari Ene ne baymanish Alohye me tiyi Grundink ye honsh Wizerit Ethiopia Mentita bekyalish Fitzum Ethiopia wit Anama di mama Wizerit Ethiopia Konjit ene nempa Tramech wodet fit Wichiba de babai Enika we malen Anchin bekuf we miai
C'était Girma Beyene et Akale Webe qui chantaient Enken Yelelen Besh sur France Inter dans La Tête au Carré. On poursuit notre rétrospective scientifique de l'année avec Philippe Hénarejos de Ciel et Espace, Sophie Becherel de France Inter, Philippe Pajot de La Recherche, Aline Richard de The Conversation et le scientifique Romain Pironnet, le scientifique au milieu de tous ces journalistes.
Dans la salle d'un grand hôtel de Séoul, l'homme affronte la machine en 5 manches. L'homme, c'est Lee Sedol, le champion du monde sud-coréen du jeu de Go. Face à lui, la machine AlphaGo, développée par une filiale de Google.
Bien sûr que je peux perdre. Cependant, la beauté du jeu de Go va rester, parce que l'ordinateur ne joue pas au Go en comprenant toute la complexité. Je vais donc faire tout mon possible pour défendre les capacités de l'être humain dans ce match.
Ce match avec AlphaGo va montrer comment les algorithmes sont forts pour s'adapter et apprendre. Mais quel qu'en soit le résultat, ce match sera un témoignage de la puissance de l'ingéniosité humaine.
Extrait du journal de LCI du 9 mars dernier, Sophie Bécherel, vous retiendrez de cette année plusieurs avancées marquantes dans le domaine de l'intelligence artificielle.
Oui, AlphaGo en est une, parce que effectivement, la machine a battu par 4-1 ce champion sud-coréen. Et ce qu'on n'a pas entendu dire, c'est que il pense, lui, que l'homme pourrait quand même battre la machine. Il dit que la victoire n'est pas tactique, elle est psychologique. En clair, AlphaGo a gagné parce qu'il était plus concentré, ou du moins qu'il n'a pas eu de baisse de concentration. Pourtant, lors de la manche que Lycédol a gagnée, il semble, d'après le créateur du logiciel, que l'intelligence artificielle ait été surprise par un coup du joueur. Et cela s'est vu dans son arbre décisionnel. En attendant, ça a été un coup de tonnerre cette année, comme l'avait été il y a 20 ans, le coup de tonnerre de Kasparov battu par Deep Blue aux échecs. Le jeu de Go a beaucoup plus de combinaisons que le jeu d'échecs, et c'est pour ça qu'on ne pensait pas qu'un ordinateur parviendrait.
On pensait que les spécialistes disaient que c'est pour dans au moins un siècle. Voilà. C'est arrivé beaucoup plus vite que prévu.
Retenons ce que dit Lycédol, il pense pouvoir les battre.
Oui, voilà, l'espoir n'est pas permis.
Une autre avancée, c'est quand même la capacité qu'ont eu deux ordinateurs à créer des messages cryptés non décodables par une autre machine et par l'homme. Là encore, c'est une avancée de Google en intelligence artificielle. Ça s'est passé en novembre dernier. Les chercheurs avaient entraîné deux machines en deep learning, c'est-à-dire en apprentissage profond ou la faculté d'apprendre par soi-même. Ils leur ont demandé de créer des messages codés, de se les échanger. Ils ont demandé à un troisième ordinateur d'essayer de casser le code. Ouais. Eh bien, cette troisième machine n'y est pas parvenue.
Donc, on ne sait pas ce que ces deux machines se sont dit, en fait.
Donc, vous imaginez les progrès plus
Incroyable.
Tard.
Incroyable.
Et l'intelligence artificielle, on en a aussi beaucoup parlé cette année via la voiture autonome. Si vous en souvenez, c'était un des thèmes beaucoup mis en avant lors du salon auto. Et c'est vrai que petit à petit, nos voitures enregistrent des informations de leur environnement et prennent des décisions au point qu'un jour, on nous dit qu'il n'y aura plus besoin de conducteurs. On n'en est pas là, ça n'est pas non plus, je pense, pour les 5 ans à venir. Mais néanmoins, les avancées sont constantes. Il faudra surtout régler les questions juridiques. Qui est responsable si la voiture décide, par exemple, de faire un écart pour éviter un obstacle ou qu'elle préfère épargner la vie de 6 jeunes enfants qui sont à vélo plutôt que celle des 2 occupants du véhicule? Est-ce que c'est le fabricant, l'acheteur de la voiture, l'inventeur du logiciel de bord, enfin les créateurs de l'intelligence artificielle? C'est une question à poser et qui nous rappelle qu'il y a 2 ans, Stephen Hawking, l'astrophysicien anglais, émettait des craintes. Il avait peur que l'humanité ne se fasse dépasser par l'intelligence artificielle parce que, dit-il, nous évoluons trop lentement, biologiquement, par rapport aux machines. Peut-être qu'elles deviendront incontrôlables. Quant à Elon Musk, ce milliardaire qui développe la Tesla et qui utilise de l'intelligence artificielle.
La Tesla, une voiture électrique.
Une voiture électrique, mais qui est bourrée de capteurs pour prendre des décisions. Eh bien, lui, il finance des recherches pour prévenir les dangers de l'intelligence artificielle et s'assurer qu'elle restera fiable et bénéfique. En tout cas, c'est un secteur qui a été extrêmement dynamique. Il y a eu beaucoup d'investissements et surtout, tous les géants ont racheté des startups, Google, Amazon, Microsoft, tout le monde investit dans ce secteur. Et nous-mêmes, on n'en a pas vraiment conscience, mais nos petits téléphones portables, ils sont bourrés d'intelligence artificielle. Désormais, tout le numérique, quand vous allez sur Internet, vous y laissez des traces. Et c'est comme ça qu'on est capable de vous situer une pharmacie quand vous touchez votre téléphone et que votre doigt est un petit peu chaud. Si vous avez de la fièvre, hop, on vous envoie à la pharmacie, ou de vous conseiller un livre parce que vous avez acheté la semaine dernière le dernier, je sais pas quoi, moi, Stephen King.
Un dernier tour de table pour évoquer un sujet qui a retenu votre attention, Philippe Pajot. On reste un petit peu dans les ordinateurs et leur capacité future. L'ordinateur quantique, qui est le numéro 2 de votre classement dans votre magazine La Recherche.
Soyons clairs quand même, l'ordinateur quantique sur lequel on fantasme depuis des années, ce n'est pas encore pour tout de suite. Mais ça frémite partout. On sent, c'est un peu comme l'intelligence artificielle, ça bouge un peu partout. Pas une semaine ne se passe en fait sans qu'on voit sortir une publication sur cette nouvelle manière de stocker l'information quantique et de faire le calcul quantique. Et cette année, justement un prototype d'ordinateur quantique reprogrammable utilisant des ions piégés nous a semblé représentatif de ces progrès continus. Là, c'est une équipe américaine de l'Université du Maryland qui a mis au point un prototype d'ordinateur quantique utilisant programmable donc. Mm-hmm. Alors quantique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'information n'est pas représentée sous la forme de 0 et 1 comme dans notre monde numérique classique, ce qu'on appelle les bits, mais par des objets qui sont des superpositions de 0 et de 1. Ça peut être à la fois un 0 et un 1. Ces bits quantiques ou qubits qui sont autorisés par les lois de la mécanique quantique, donc ils existent, on sait les mesurer, même si c'est très bizarre, sont donc l'essence de ces possibilités extraordinaires de ces ordinateurs quantiques. En gros, l'idée, c'est que grâce à ces phénomènes, intrication, mélange de 0 et de 1, disons, un ordinateur quantique peut avoir accès à la totalité d'un résultat d'un calcul en une seule étape, alors qu'un ordinateur classique a besoin de beaucoup d'étapes pour le faire.
Donc il va beaucoup plus vite et il prend beaucoup moins de place, si je le dis simplement.
Il peut aller beaucoup plus vite typiquement, mais alors c'est très très difficile à faire. Donc là, c'est pour ça que je vous dis que c'est encore, on n'en est pas encore là, parce que c'est vraiment les prémices, notamment parce que lorsque on veut mettre beaucoup de bits quantiques les uns à côté des autres, ils perdent leur caractère quantique et donc c'est retour à la case départ.
Est-ce que c'est pas un peu l'arlésienne, cet ordinateur quantique, alors, finalement?
Ben, quand on interrogeait, il y a 20 ans, moi, j'interrogeais Serge Haroche, le prix Nobel de physique 2012, qui est un grand spécialiste de la mécanique quantique, et il y a 20 ans, il était très très pessimiste. Je l'ai réinterrogé assez récemment, et son discours a quand même changé. Ah oui. Il a quand même changé, et vraiment, avec tout ce qu'on voit sortir, moi, j'ai l'impression que, et puis quand on interroge d'autres spécialistes, que d'ici 10 ans, ça va être quelque chose d'acquis.
D'accord. Donc, voilà. L'ordinateur quantique, de moins en moins un fantasme et un rêve, et de plus en plus concret. Voilà. Philippe Hénarejos, une exoplanète qui a retenu votre attention. Pourtant, on en découvre chaque année beaucoup, mais celle-ci, elle mérite le détour.
Oui, on en a plus de 3000 maintenant. Ouais. Mais le 24 août dernier, il y a quand même eu une annonce, c'est que il y a une planète qui a été détectée autour de l'étoile la plus proche, qui s'appelle Proxima Centaure. C'est à 4,3 années-lumière, et cette planète, elle a a priori une masse qui est comparable à celle de la Terre, 1,4 fois celle de la Terre. Et en plus, elle se trouve à une distance de son étoile qui fait ni trop chaud ni trop froid, et que donc si par hasard elle était entourée d'une atmosphère, on pourrait imaginer qu'il y ait de l'eau liquide à la surface, avec toutes les conséquences qu'on imagine, puisque l'eau liquide est essentielle à la vie. Donc on la voit pas, cette planète, encore. On sait qu'elle est là, mais on va bientôt pouvoir la voir. Et c'est pour ça qu'elle est intéressante. Elle a toutes ces caractéristiques, a priori, intéressantes dont je vous parlais, mais en plus, d'ici quelques années, quand les très gros télescopes sortiront de Terre, et ça commence déjà, il y a le Giant Magellan Telescope qui va faire 25 mètres, qui est déjà en cours de construction au Chili. Ces télescopes-là auront suffisamment de sensibilité, s'ils ont les bons instruments, pour voir ces planètes. Et si on les voit, on va voir la lumière qu'elles réfléchissent à leur étoile, on va pouvoir les étudier, on va pouvoir savoir si effectivement il y a une atmosphère, on va pouvoir savoir ce qu'il y a dans cette atmosphère, on va pouvoir commencer à les explorer. Et ce qui est fabuleux, c'est qu'elle est là, cette planète, c'est la plus proche étoile. Il n'y a pas plus près.
Ouais.
Donc, il y a déjà des gens, cette année, en 2016, qui ont imaginé envoyer des sondes pour faire le voyage entre le Soleil et cette étoile. C'est
combien de temps ça prendrait?
Alors là, avec les moyens actuels, si on parle de Voyager, c'est 30 000 ans.
Mais, d'accord, faut pas être pressé non plus.
Il y a des gens qui ont imaginé, avec, il y a eu une annonce qui avait été faite avec le milliardaire russe Yuri Milner, avec Stephen Hawking, un grand rapport de publicité, en proposant des vaisseaux microscopiques qui seraient poussés par un laser et qui feraient ça en 20 ans. Alors, c'est encore de la science-fiction, mais le fait que cette planète soit là, qu'elle soit juste à côté, ça va encore booster l'envie d'aller voir de plus près.
Sophie Becherel, du nouveau, du côté des neuroprothèses.
En avril, une équipe américaine est en effet parvenue à rendre l'usage de sa main à un jeune tétraplégique de 24 ans, Yann Buckhart. En fait, on a posé une dérivation neurale à ce jeune homme, en clair, 96 électrodes absolument minuscules, qui ont été implantées dans son cerveau afin que, par la pensée, il puisse ensuite guider son bras en contournant la partie de la moelle épinière lésée. Les électrodes sont reliées d'abord à un système de codage de la pensée. Les signaux, ils sont décodés, puis recodés pour être transmis à d'autres électrodes qui vont activer un activateur musculaire situé sur son bras comme un large bracelet, si vous voulez. Alors bien sûr, il a fallu à Yann Buckhart beaucoup, beaucoup d'entraînement pour parvenir à se verser un verre d'eau, et la prothèse en plus n'est utilisable qu'en laboratoire, il ne l'a pas chez lui, mais c'était réellement un progrès. Et en Suisse, on a aussi assisté cette année à une avancée très importante. Après les souris, une équipe de l'EPFL a réussi à faire remarcher des macaques paralysés. Ouais. En fait, la prothèse, là encore, elle Elle vise à contourner la partie de la moelle épinière qui est lésée. Elle établit un pont. Elle réactive le peu de circuits neuronaux qui existent. Et surtout, elle est destinée aux personnes qui auraient eu un accident peu de temps auparavant et qui ont donc encore une masse musculaire assez importante. Donc là encore, on utilise l'interface cerveau-homme-machine. Hein, c'est-à-dire que le cerveau envoie le message destiné à marcher, le message recueilli par des électrodes qui sont implantées dans le cortex moteur. Et puis, elles sont transmises à un ordinateur. Et là, on décode le signal, on le recode et c'est envoyé par Bluetooth à un petit dispositif qui a été greffé sur la moelle épinière, mais après la partie lésée. Et puis là, ça fait fonctionner les jambes, la partie qui fonctionne encore. Voilà. Après les singes, donc, de ces derniers mois, ce sont 8 humains qui entreront dans un essai clinique l'an prochain.
On est en train de parler de faire remarcher
des paraplégiques. Exactement. Hein. Et il y a plusieurs équipes dans le monde qui y travaillent et réellement, d'abord, il y a des candidats, si vous voulez, pour essayer, alors qu'il faut énormément travailler, il faut beaucoup donner de soi, c'est pas évident d'avoir des électrodes implantées, d'être reliées, etc., à des machines. Mais visiblement, les progrès sont là.
Et sur cette étude sur les macaques hein, qui contrôlent par la pensée leurs membres, on trouve un article, notamment dans le magazine La Recherche du mois de janvier. Merci à vous pour cette rétrospective. Alors, on est d'accord, subjective et non exhaustive de tout ce qui s'est passé en 2016, mais c'était déjà assez foisonnant. Restez avec nous dans un instant, on s'intéresse à la fraude scientifique et à la méfiance que suscitent parfois les sciences. So slowly, time goes by. So slowly, time goes by. So slowly, time goes by. So slowly. Madonna, Hung Up sur France Inter.
La tête au carré. Le club sur France Inter.
Et l'heure est venue, comme chaque mois, de retrouver Aline Richard de The Conversation France, accompagnée aujourd'hui de Romain Pironnet, doctorant en gestion, qui signe un article paru donc aujourd'hui en partenariat avec La Tête au Carré sur le site The Conversation. Le principe de The Conversation France, c'est vraiment de donner, Aline, la parole aux chercheurs, aux universitaires, vous les contactez, ils prennent la plume et directement, ils s'adressent à tout le monde, à la population, aux journalistes.
Tout à fait. Nous sommes un site d'information générale, comme il y en a beaucoup, qui a une spécificité qui est totalement inédite en France, qui est donc que les articles sont écrits par des personnalités du monde académique, c'est-à-dire des chercheurs et des universitaires, sur tout sujet, du sport à la culture, en passant par la science et la technologie. Et ces contributions éclairent le débat public.
Et alors, pourquoi vous avez choisi de contacter Romain Pierronnet ?
À The Conversation, on s'intéresse beaucoup à ces notions qui deviennent un petit peu tarte à la crème, hein, n'est-ce pas ? La post-vérité, les bulles informationnelles, où chacun est enfermé dans ses propres certitudes et renforcé par les réseaux sociaux. Donc, on s'intéresse à ça. Et l'article de Romain que nous publions ce matin, finalement, fait le point, d'une certaine façon, sur comment la pratique scientifique a évolué ces dernières années, qu'est-ce qu'elle répond, qu'est-ce qu'elle peut faire face à ces espèces de butoirs de la pensée, hein, comme disait Françoise Héritier. Comment on peut faire de la science aujourd'hui, comment on peut en parler sur des sujets qui peuvent être polémiques et qui sont parfois complexes, comment on en parle avec ces phénomènes post-vérité.
Alors Romain Pierronnet, vous vous interrogez donc sur la façon dont la production des sciences évolue. Vous trouvez que le métier de chercheur a beaucoup changé ces derniers temps ?
Moi, je suis encore un petit jeune, donc je ne sais pas si le métier de chercheur a beaucoup changé. En tout cas, il y a un environnement qui fait qu'il est soumis à des tensions. Ouais. En fait, une discipline qui s'est structurée récemment dans le champ de la recherche, c'est ce qu'on appelle la sociologie des sciences, qui se demande, mais au fond, comment fonctionne le champ scientifique ? Quelles sont les valeurs qui déterminent la manière dont se comportent les chercheurs ? Et ces valeurs sont réinterrogées par des transformations globales, hein, qui concernent l'ensemble de la société, mais en particulier ces chercheurs. Et on sait bien que ces chercheurs, par exemple, obéissent à des règles de méthodologie, de valeurs, d'éthique, etc. Mais dans un monde qui peut amener à remettre en cause ces valeurs. Typiquement, je pense à des choses comme le publisher perish, hein, vous savez, cette idée qu'il faut que les chercheurs publient de plus en plus, donc ça veut dire qu'il faut ils trouvent du temps pour publier, développer
publier
des stratégies.
Publier ou mourir.
Publier ou mourir, voilà, c'est l'idée. Parce que pour faire carrière, il vaut mieux publier davantage, publier beaucoup. Mais je pense aussi à des choses comme la communication. On demande beaucoup aux chercheurs maintenant de communiquer auprès du grand public, donc le temps qu'ils consacrent à ça, c'est du temps qu'ils consacreront moins au publish hors périche, justement. Et quelque chose qui est assez emblématique de cette tension, c'est qu'on a même inventé un indice qui s'appelle l'indice Kardashian. voilà, donc les Science Kardashian, c'est les chercheurs qui passent beaucoup de temps à créer des blogs, à être sur Twitter, etc. Donc on fait le ratio entre leur nombre de citations dans des articles scientifiques et leur nombre de followers de personnes qui les suivent sur Twitter. La simple existence de cet indicateur révèle qu'il y a quand même ce type de tensions aussi qui se développent.
Alors, est-ce que ce sont justement ces tensions qui sont à l'origine ? On entend de plus en plus parler de fraude de scientifiques. Alors, soit ce sont des plagiats, hein, ils se copient entre eux, ils s'approprient des résultats qu'ils n'ont pas réellement trouvés eux-mêmes, ou alors vraiment ils bidonnent complètement leurs résultats pour en avoir davantage et plus vite. Est-ce qu'on en entend plus parler ou est-ce que ça se produit plus du fait de cette pression que vous évoquez ?
Alors, ce serait difficile d'affirmer qu'ils se produisent plus. En tout cas, c'est sûr qu'il y a une pression qui peut conduire à ça. Le numérique peut faciliter aussi le plagiat, hein. C'est un sujet qui concerne aussi bien les chercheurs que les étudiants, parce que ça facilite tout simplement le copier-coller. Et en même temps, le numérique, c'est un pharmacone, hein. Donc c'est à la fois la solution et le problème. Et en l'occurrence, le numérique permet aussi l'émergence de logiciels anti-plagiat, de solutions de peer reviewing collaboratif en ligne, qui permettent à des chercheurs de détecter entre eux des cas de fraude ou de plagiat et de se les signaler, de faire retirer des articles éventuellement de revues scientifiques.
Aline.
Oui, en fait, ça c'est très important, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut pas avoir un point de vue trop sombre sur ces affaires. Quand il y a ce chercheur allemand qui vous savez qui était surnommé von Googleberg, qui a pompé un certain nombre de travaux de recherche, bon, il est effectivement avec d'autres logiciels attrapables. Je citerai également ces sites Romain nous parlait du peer review en ligne, il y a des sites sur la rétractation, sur l'observation des papiers scientifiques qui ont été rétractés, qui permettent aussi d'améliorer le débat public et la transparence.
On va traduire un tout petit peu ce que vous dites, hein. C'est-à-dire que entre pairs, c'est-à-dire entre scientifiques, on peut se relire les uns les autres et finalement cautionner ou pas les articles des autres scientifiques.
Pourquoi la fraude est un problème extrêmement grave ? Pas simplement parce que c'est mal, c'est parce que la construction de la science se fait par les articles publiés
et que si vous fraudez ou si vous racontez des conneries, eh bien, ça rentre dans l'histoire.
Ouais, on comprend beaucoup mieux quand vous parlez comme ça.
D'accord.
Alors, il y a aussi un thème qui vous intéresse, Romain Pierronnet, c'est la méfiance. De plus en plus, en fait, on remet en cause le discours officiel, le discours scientifique. En même temps, l'esprit critique, c'est bien de l'avoir en tête.
Oui, une question centrale dans tout ça, c'est comment se fabrique la vérité, le vraisemblable et le vrai. Parce que les chercheurs ont quand même des méthodes pour établir ce qui est de l'ordre du vraisemblable ou du vrai, mais ce ne sont que les méthodes des chercheurs. Est-ce que l'ensemble de la population et des citoyens sont formés, socialisés à ces méthodes? C'est pas le cas, et donc ça pose la question de la porosité entre la production de la connaissance scientifique et son appropriation par l'ensemble de la population. Donc là, évidemment, il y a un rôle qui est le rôle de l'éducation, du journalisme scientifique. Les universités se dotent aussi de cellules de culture scientifique et technique pour essayer de créer cette porosité. Mais on vit aussi à l'époque de la société de la connaissance, donc attente accrue à l'égard des chercheurs pour produire de la connaissance, et en même temps, méfiance accrue à l'égard des chercheurs. Et on le voit autour de controverses type les vaccins, les OGM, les tremblements de terre que les chercheurs sont incapables de prévoir, donc il faut leur en tenir rigueur, etc. Donc voilà, c'est des sujets que je trouve très intéressants, qui doivent nous interpeller sur le rapport qu'on entretient les uns et les autres avec la notion de vérité, par exemple.
Comment on fait évoluer tout ça? Vous employez ce terme de slow science, de science peut-être un petit peu plus, on va dire, dépassionnée, plus douce. Hein, comment on va vers cette slow science?
Ça demande, alors, un terme important, c'est la notion d'humilité. Les chercheurs doivent accepter aussi de remettre en cause leurs travaux, et de la même manière, celles et ceux qui les commentent librement sur les réseaux sociaux, sur le web, sur Internet, sans être forcément formés à ces outils et à ces méthodes, doivent aussi accepter que la contradiction, le fait de se faire remettre en cause, de discuter, ça fait partie des valeurs des chercheurs, et c'est comme ça qu'on produit de la connaissance nouvelle et fondée sur quand même un minimum de rationalité et d'outils de discernement.
Merci Romain Pierronnet et Aline Richard. Je rappelle le titre de votre article, Science et Société, les valeurs sous tension. Il est à lire sur le site theconversation.com, en lien sur la page de La Tête au Carré, bien sûr. Allez, pour finir, un dernier tour de table avec mes invités journalistes pour peut-être quelques pistes sur ce qui nous attend en 2017. Après avoir regardé dans le rétroviseur, on taille la route. Alors, qu'est-ce qui nous attend? Philippe Hénarejos de Ciel et Espace.
Voilà, moi j'ai plein de vœux. J'espère que les radiotélescopes vont faire la première photo d'un trou noir après les avoir détectés à l'onde gravitationnelle. J'espère que la sonde Cassini va nous montrer les cailloux des anneaux de Saturne avant de finir sa mission dans Saturne le 15 septembre prochain. J'attends de voir ce que la Chine va faire en envoyant une sonde sur la Lune et ramener des cailloux de la Lune la première fois depuis 1976. J'espère aussi que la sonde Dawn qui est autour de Cérès va avoir un geyser en éruption. Et puis, malgré
mais
tout...
Mais c'est Noël.
Mais oui, et je crois que... Enfin, j'espère qu'on va quand même avancer un peu sur cette histoire de la matière noire. C'est quand même les trois quarts du contenu de l'univers. On n'y comprend rien. On n'a pas trouvé de particules exotiques. On ne sait pas si c'est une gravitation modifiée. Il faudrait que ça avance.
Philippe Pageot de La Recherche.
Oui, la matière noire, je suis tout à fait d'accord. C'est vraiment un domaine... où on nage un petit peu, mais on aura peut-être des résultats cette année, qui sait. Donc moi, il y a plein de choses que j'aimerais dire, mais je vais juste vous parler d'un essai clinique dont les résultats vont arriver au mois de janvier, là, qui visant à tester des virus pour soigner. Ce ne sont pas n'importe quel virus, en fait, c'est des virus tueurs de bactéries, des bactériophages. Et là, dans cet essai, qui a été lancé en 2015 dans plusieurs hôpitaux européens chez 200 grands brûlés, dont les plaies sont infectées par des bactéries, il s'agit de leur injecter un cocktail de ces virus. Donc, ce qui est intéressant, évidemment, c'est que c'est une solution potentielle comme alternative aux antibiotiques, donc quand on connaît les problèmes de résistance qui arrivent de plus en plus.
Donc, des virus pour soigner, Sophie Becherel, 20 secondes pour finir.
Mon souhait, c'est plus de cyclistes et plus de piétons pour aider la planète à aller
pour
mieux.
Pour moins de pollution.
On n'a pas parlé de 2016.
Et debout sur la table.
Allez, absolument. Année la plus chaude. Et 2017, voilà, il ne faudrait pas que ça continue comme ça. La planète a la fièvre, il faut arrêter ça.
Merci à tous. Bon réveillon. Et puis, à l'année prochaine aussi en forme. Dans un instant, vous retrouvez Fabrice Drouel, aujourd'hui dans Affaires Sensibles. Fabrice revient sur l'histoire de la construction du Grand Louvre et de sa pyramide, une bataille architecturale, esthétique, muséographique, mais aussi politique.